RFI 19h30 à Paris, il est 18h30 à Dakar et en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Et cette première édition, elle est présentée par vous, Pierre Boudiaz. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Nemo, bonsoir à tous. Le Botswana va découvrir l'alternance politique. Pour la première fois de son histoire, l'opposition remporte les élections législatives. Le chef de l'État sortant promet de faciliter la transition. La France reconnaît l'assassinat de Larbi Ben Midi. Le dirigeant du FNL a bien été tué par les militaires français en 1957. Geste mémoriel alors que l'Algérie célèbre aujourd'hui les 70 ans du début de l'insurrection indépendantiste. Le Kenya a un nouveau vice-président, Abraham Kithure Kindiki, a officiellement prêté serment ce vendredi, la fin d'un long feuilleton débuté par la destitution de son prédécesseur. Et puis du sport, il y a embouteillage pour les footballeurs de N'Djamena. La capitale tchadienne ne dispose que d'un seul terrain vert que se partagent les clubs. Une cohabitation pas toujours sereine, vous l'entendrez. Le Botswana plonge donc dans l'inconnu. Pour la première fois de son histoire, le pays d'Afrique australe va vivre une alternance politique, conséquence de la lourde défaite vécue par le chef de l'État sortant, Mokgweetsi Masisi, lors des législatives qui se sont tenues mercredi dernier. Au pouvoir depuis l'indépendance, le Parti démocratique du Botswana doit donc céder les rênes du pays au profit de la coalition de gauche UDC dirigée par Duma Boko, un avocat de 54 ans qui devient le nouveau président. Florence Maurice.
C'est une débâcle historique et inattendue pour le parti qui a mené le Botswana à l'indépendance. Mercredi encore, le chef de l'État sortant prédisait une victoire certaine. Il arrive finalement quatrième et déjoue encore les pronostics en concédant sa défaite sans ambiguïté dès les premières estimations. « Nous avons eu tout faux aux yeux du peuple », a-t-il déclaré ce vendredi matin. « Je souhaite continuer à diriger le pays, mais je respecte la volonté du peuple », fin de citation. Son geste est salué au Botswana et dans la région. Il ouvre la voie à une alternance pacifique. Son successeur s'appelle Duma Boko, un avocat de 54 ans dont la coalition UDC a obtenu une confortable majorité. Or, au Botswana, c'est le Parlement qui désigne le chef de l'État au scrutin indirect. Duma Boko n'est pas un novice. Il est entré en politique à 21 ans et se présentait pour la troisième fois. Il reconnaît lui-même qu'il ne s'attendait pas à une victoire si nette. Elle témoigne de la volonté de changement de la jeunesse du Botswana, plombée par une croissance en berne, durement frappée par le chômage et parmi les plus inégalitaires dans le monde.
Florence Maurice, démonstration de force à Alger à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance contre la France. La capitale algérienne témoigne d'un défilé militaire de 2h30 en présence du président Abdelmadjid Tebboune et de ses homologues tunisiens et mauritaniens. Un anniversaire mémorable, incarnant gloire, dignité et fierté selon les mots du chef de l'État algérien. Il a également décidé de la libération d'une dizaine de détenus à cette occasion. Des figures en lien avec le mouvement pro-démocratie du Irak, parmi lesquels le journaliste Hissan El Kadi, en prison depuis 2022. L'ancien patron de Radio M et de Maghreb émergent avait écopé de 7 ans de détention, dont 5 en ferme. Écoutez la réaction de Khaled Drareni, représentant de Reporters sans frontières en Afrique du Nord.
C'est une très bonne nouvelle pour nous tous, pour les militants, pour les journalistes. Reporters sans frontières a salué dès ce matin ce geste. Nous militons depuis presque 2 ans pour la libération de Hassan Kadi. Nous avons mené une campagne internationale sous toutes ses formes. Nous avons mobilisé des écrivains, des journalistes, des hommes politiques dans tous les pays du monde. Nous sommes extrêmement heureux que Hassan Kadi ait retrouvé les siens en ce 1er novembre. Avec la libération de Hassan Kadi, de Farhat et de Rilos, aujourd'hui, il n'y a plus de journalistes emprisonnés en Algérie. Pour ce qui est des gestes politiques à faire, évidemment qu'il y a une grande attente en Algérie sur l'ouverture politique. Depuis hier, beaucoup de détenus d'opinion ont été libérés. Nous n'avons pas encore le chiffre exact. Beaucoup de détenus politiques. On espère que cela est la traduction de ce dialogue national qui a été annoncé par le président Tebboune lors de son investiture à la fin du mois de septembre. On espère que cela entre dans ce cadre. On espère qu'il y aura un vrai dialogue politique et qu'il n'y aura plus de détenus d'opinion ni politique en Algérie.
Propos recueillis par Ouda Ibrahim. Et ces célébrations algériennes interviennent quelques jours après la visite historique du président français au Maroc, un déplacement auquel n'a pas fait référence Abdelmadjid Tebboune, alors qu'Emmanuel Macron a confirmé lors de ce déplacement la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. occidental, Alger est de son côté le principal soutien des indépendantistes du Front Polisario. Et c'est dans ce contexte que le président français a reconnu aujourd'hui la responsabilité de l'État français dans l'assassinat du militant nationaliste algérien Larbi Ben Midi en 1957. En Algérie, il est considéré comme un héros national. Alger a toujours réclamé la reconnaissance par la France de l'exécution par des soldats français du chef du FLN dans la capitale algérienne. Sur place, précision de notre correspondant Faisal Metaoui.
L'annonce du président français est intervenue le jour même de la célébration en Algérie du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance. Alger continue de réclamer la reconnaissance de tous les crimes commis pendant la période coloniale française, parmi lesquels l'assassinat de Larbi Ben Mehdi, un des leaders politiques et militaires de la guerre et un des fondateurs du FLN, Front de Libération Nationale. Le 4 mars 1957, dans une ferme dans la Métija, au sud d'Alger, les soldats français, sous les ordres des officiers Marcel Bijard et Paul Osserès, ont exécuté par pendaison Ben Mehdi après l'avoir soumis à la torture pendant 10 jours. Dans ses mémoires publiées en 2010, le général Paul Osserès a évoqué les faits mais sans aucun remords. Emmanuel Macron a, pour rappel, reconnu en mars 2021 la responsabilité de l'État français dans la mort du militant nationaliste algérien Ali Boumengel, torturé et exécuté par les soldats sous les ordres du même Osserès le 23 mars 1950. 157, Alger. Faisal Metaoui, Alger, RFI.
Et dans son communiqué, l'Élysée estime que cette reconnaissance atteste de la poursuite du travail de vérité initié avec l'Algérie. Objectif, selon Paris, parvenir, je cite, à la constitution d'une mémoire apaisée et partagée. Et le travail de mémoire qui se poursuit dans un autre drame, celui du massacre de Tiaroy au Sénégal. Nous allons largement en parler maintenant. Il y a 80 ans, jour pour jour, près de 2000 tirailleurs sénégalais quittaient la ville française de Morlaix à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. 2 mois plus tard, ils étaient tués par l'armée française dans le camp militaire où ils étaient cantonnés dans la banlieue de Dakar. Leur crime, avoir exigé le paiement de leur solde d'un acte de rébellion selon leur bourreau. 80 ans plus tard, c'est donc en Bretagne qu'était commémoré le premier chapitre de ce drame. Pour la première fois, la ville de Morlaix a rendu hommage ce vendredi à ses combattants. Reportage de Guillaume Thibault.
Sonnerie aux morts, minutes de silence et une émotion intense dans ce square de la Résistance. Lieu symbolique choisi pour cette cérémonie où le maire de Morlaix, Jean-Paul Vermeau, a rendu hommage aux 2000 tirailleurs sénégalais accueillis à Morlaix durant 10 jours et partis de la ville en bateau pour rejoindre Dakar le 5 novembre 1944.
Oui, des soldats africains sont venus nous libérer. Je crois que nous devons faire la lumière sur l'ensemble des drames qui ont peu émaillé notre histoire commune, mais nous projeter également dans un avenir qui doit être commun.
Le maire de Tiaroy, Mbaye Sène, souffrant, c'est Bachir Sy, le directeur du festival Tiaroy 44, qui a été désigné pour le représenter et pour lire son discours, un discours de remerciement et un appel pour que la vérité sur le drame de Tiaroy soit enfin connue.
Nous voulons, entre autres, que le nombre de martyrs puisse être élucidé. Nous espérons que des fouilles archéologiques soient menées pour connaître l'endroit exact de dimension de ces tirailleurs sénégalais.
Dès leur arrivée à Morlaix le 26 octobre 1944, les 2000 tirailleurs sénégalais ont exigé le paiement de leur solde de guerre. Solde qui n'a jamais été totalement réglé et qui est à l'origine du drame de Tiaroy. Avec cet hommage qui s'est clôturé avec les hymnes français et sénégalais, la ville de Morlaix répond à sa façon à l'appel de l'histoire.
Guillaume Thibault, et vous l'entendiez, ce sont donc notamment les membres de l'association Tiaroy 44 qui représentaient les parties sénégalaises lors de cette cérémonie. Parmi les membres de ce groupe qui travaillent sur la mémoire et l'écriture de l'histoire de ce drame, Diena Bassar, cette professeure de français au lycée de Tiaroy, était présente aux cérémonies. Elle revient émue sur ce passage des tirailleurs dans la ville bretonne avant le retour à Dakar et sur la volonté de cette commune française d'assumer cette histoire commune. Des propos recueillis par Guillaume Thibault.
Pour moi, c'est quelque chose de très important, donc qui me marque beaucoup parce que je sais que l'histoire commence à Morlaix et c'est très émouvant de venir à Morlaix. J'ai le sentiment de faire un recueillement, faire un peu le deuil de ces tirailleurs sénégalais. Ça me soulage un peu. Voilà, c'est très émouvant, c'est beaucoup d'émotions. C'est un peu difficile à dire, mais quand même, ça me permet de mieux comprendre les choses. Mieux supporter et de comprendre également ici à Morlaix, les tirailleurs, comme on dit, avec les témoignages, avaient, même si la fin est un peu tragique à Dakar, à Morlaix, ils ont eu également un soutien, ils ont bénéficié de l'affection des habitants de Morlaix. Et ça, c'est un soulagement de savoir qu'ils n'avaient pas aussi souffert que nous le pensions.
80 ans après, une fois de plus, tout le monde s'est posé la question d'une reconstruction, d'une écriture de l'histoire. Peut-être qu'elle commence un petit peu plus aujourd'hui.
Voilà, donc ici, nous avons espoir maintenant que la justice va se faire. Parce que ce qui nous avait révolté, c'est un sentiment d'injustice de ceux qui avaient donné leur vie, qu'on a massacré. C'est un crime qu'on a voulu masquer et qui ont fait que ce sentiment d'injustice, de révolte, donc grandissait au fond de chacun des Sénégalais ou bien pas des Africains, parce que c'est pas seulement les Sénégalais. Maintenant que nous savons que tous les États africains sont engagés dedans et qu'à Molé également, on a réellement beaucoup de gratitude à l'égard de ces tirailleurs, on commence quand même à se sentir un peu soulagé. Délivrer un peu, ou bien on a l'espoir que peut-être que qu'on ira vers la reconnaissance de cette histoire pour leur donner les honneurs qu'ils méritaient.
De voir un pouvoir politique, en l'occurrence le maire de Morlaix, ici présent, et qui dit nous on doit reconnaître cette histoire, nous on doit faire ce travail de mémoire pour la paix, ce sont des mots forts.
Ce sont des mots très forts et c'est un message envoyé à l'endroit de tout le monde et qui fait qu'également les autorités africaines vont tirer la leçon pour savoir qu'ils devront être aussi engagés. Parce que même si le maire de Morlaix, une autorité politique, pense cela, je pense que ceux qui doivent se sentir plus concernés, ce sont les États africains et ça c'est réellement très réconfortant et c'est très encourageant.
Et le reportage de Guillaume Thibault à Morlaix sont à retrouver sur RFI.fr.
Afrique Soir sur RFI.
Et le secrétaire général des Nations Unies se dit atterré par les combats dans le centre du Soudan. Le porte-parole d'Antonio Guterres assure ce soir que ce dernier condamne fermement les violences des forces de soutien rapide dans l'état d'Al Jazeera. Il dénonce de possibles violations du droit humanitaire et international alors que les paramilitaires sont accusés de mener des pillages et exactions depuis maintenant une semaine dans la zone. Les Nations Unies s'inquiètent également d'actes de violences sexuelles généralisées. Au Niger, ce sont les groupes djihadistes qui continuent de provoquer l'instabilité. Ils ont attaqué hier un camion transportant des marchandises en provenance de Lomé via le Burkina Faso, assaut près de Petel Kolé, à une trentaine de kilomètres de Terra, dans le Tillabéri. Plusieurs camions ont été incendiés, une fusillade a éclaté avec les militaires qui escortaient le convoi. Aucun bilan officiel pour le moment, les précisions de Magali Lagrange.
Nous sommes attaqués, répète un homme caché sous un camion, alors que des tirs résonnent sur une vidéo que RFI a pu consulter. D'autres images montrent des camions en feu filmés par un conducteur qui affirme que des militaires sont là pour sécuriser les lieux. L'attaque contre le convoi a eu lieu à une trentaine de kilomètres de Terra, dans le Tillabéri. Depuis la fermeture de la frontière avec le Bénin, les camions empruntent cette route pour ramener au Niger les marchandises qui arrivent au port de Lomé. Ils traversent le Burkina Faso et sont escortés pour des raisons de sécurité. Suite à cette attaque, l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger expriment sa détresse. « Nous avons perdu trop de nos camarades sur cet axe », écrit-elle dans son communiqué. « C'est un risque pour nous », explique un conducteur que nous avons joint au Niger, « mais nous n'avons pas le choix puisque nous devons approvisionner notre pays. » « Nous allons continuer à emprunter cette voie », confirme pour sa part le président du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger, puisque c'est pour l'instant la seule autorisée. « Mais les choses sont en train de rentrer dans l'ordre », affirme Dan Maradi Yakoubou. « Ce n'est qu'une question de temps. »
Magali Lagrange, le Niger, où 10 nouvelles personnes sont inscrites sur le FPGE, le fichier des personnes ou entités impliquées dans des actes de terrorisme ou des infractions portant atteinte aux intérêts de la nation. Parmi les personnalités qui intègrent cette liste créée en août dernier, figurent des proches de l'ancien président Mohamed Bazoum, renversé en juillet 2023, dont deux anciens ministres, Assoumi Massaoudou et Al-Alada, tous sont actuellement en exil. RFI, il est 22h43 à Nairobi, le Kenya, qui a un nouveau vice-président, l'ancien ministre de l'Intérieur Abraham Kithure Kindiki a prêté serment ce matin dans la capitale devant plusieurs milliers de personnes. Son prédécesseur Rigathi Gachagua a été destitué par le Sénat il y a deux semaines en raison d'allégations de corruption et d'incitation à la division ethnique, des accusations qu'il dément après l'avoir suspendu. La justice kenyane vient d'autoriser la prestation de serment de son successeur. La journée de ce vendredi a été déclarée fériée pour l'occasion. Précision de notre correspondante Alban Tiroir.
C'est le visage sérieux aux côtés de son épouse que Kithure Kindiki a prêté serment comme vice-président. Âgé de 52 ans, cet ancien professeur de droit, sénateur de 2013 à 2022, était depuis 2 ans ministre de l'Intérieur. Lors de son discours, il s'est dit reconnaissant envers le président Ruto pour sa nomination.
Au cours des prochaines années, alors que vous allez nous mener vers la transformation de notre pays, je veux vous soutenir aux côtés des autres membres du gouvernement pour construire un Kenya qui offre encore plus d'opportunités, un Kenya qui soit plus démocratique, un Kenya qui soit transformé.
Kithure Kindiki est originaire de la très influente région du Mont Kenya. Allié de longue date de William Ruto, il faisait partie des favoris pour être son colistier pour la présidence en 2022. C'est Rigathi Gachagua qui avait finalement été choisi. Sa destitution marque la fin de plusieurs mois de froid avec le chef de l'État, évoqué ce matin par le président Ruto.
My dear Professor Kindiki,
mon cher professeur Kindiki, j'ai besoin de votre voix, de votre intelligence pour m'aider et pour aider les membres du gouvernement à mettre en avant les actions que nous menons. Je suis presque devenu une voix solitaire au sein de l'exécutif, particulièrement au sein de la présidence. Mon frère, vous êtes éloquent, vous êtes intelligent, j'ai confiance, vous allez pouvoir m'apporter ce dont j'ai manqué ces 2 dernières années.
Le vice-président déchu, Rigathi Gachagua, conteste son remplacement en justice, l'affaire est toujours en cours. Alban Tironi-Robi, RFI.
Et parmi les défis qui attendent le nouveau vice-président, relever les finances du Kenya, les autorités sont à court d'argent et doivent faire face au poids de la dette. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui dans les médias locaux son intention de réintroduire certaines taxes très controversées. Elles avaient été annulées après des manifestations violentes en juin. Et puis, direction le Tchad, pour finir, le pays où les footballeurs de N'Djamena doivent faire preuve de talent à l'entraînement et de diplomatie en dehors, car dans la capitale tchadienne, le manque de terrain de sport se fait cruellement sentir pour les clubs. Chaque jour, ils se relaient sur la seule pelouse dédiée aux compétitions et aux entraînements, provoquant des tensions et une frustration grandissante. Le récit de Nesta Yamgoto.
Il est 8h et Gazelle FC est déjà sur le terrain du stade municipal de Paris-Congo. Le 3e club de la journée a foulé l'unique pelouse de la capitale, dédiée aux compétitions et aux entraînements. Aujourd'hui, Gazelle partage le terrain avec son rival, Elegue Sport. Une cohabitation qui ne plaît pas vraiment à l'entraîneur de Gazelle, Zamgakso Barkos.
Vraiment, ce problème de stade est un dilemme pour la préparation de nos équipes. Vous n'avez aucune stratégie à mettre en place sans que cet adversaire ne le sache. C'est vraiment délicat, ce problème de terrain.
Outre les 34 clubs de première division et deuxième division, les équipes féminines ont aussi droit à leur créneau quotidien, 2 heures par club. Un temps trop court pour un entraînement optimal, selon Bimadita Las, joueur de la DGCE.
Tu t'entraînes, tu as une équipe qui t'attend. Quand c'est son heure, l'équipe elle te met la pression, on te demande de libérer le terrain. Tu es obligé de libérer le terrain, alors que tu n'as pas encore fini la séance que tu as prévue.
Avec une demi-douzaine des stades dans la capitale, dont la plupart sont soit en travaux, soit en construction, les clubs se sentent à l'étroit. Les dirigeants, eux, appellent à l'ouverture de l'hippodrome de N'Djamena. En attendant, les clubs continuent de se succéder sur le même terrain. Nestayem Goutou, N'Djamena, RFI.
RFI, il est 18h47 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Pierre Boudias.
Et nous sommes ensemble pour une grosse de vingtaine de minutes. Dans un instant, nous serons à Addis Abeba où le bruit des pelleteuses remplace celui des concerts. Les grands travaux de rénovation dans la capitale font parfois des quartiers culturels historiques de la ville, des dommages collatéraux. Reportage à suivre dans le quartier de Fenedika. De la musique tunisienne à retrouver également. Rencontre avec une artiste qui remet au goût du jour le répertoire juif tunisien. Elle s'appelle Sarah Perez et espère reconstruire des ponts entre les cultures dans une actualité marqué par la violence. Voilà, vous êtes sur RFI. Merci d'avoir choisi la Radio du Monde. Et il est 22h48 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne qui fait peau neuve ces dernières années. À l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed, de nombreux projets de réurbanisation ont vu le jour. Au-delà de l'impact sur des habitants parfois laissés à la rue, ces grands travaux entraînent également la destruction de quartiers historiques comme celui de Fenedika, au lieu de la culture locale. Notre correspondante Clotilde Hazard a assisté à la toute dernière soirée avant le passage des bulldozers dans ce haut lieu de la culture éthiopienne.
Ce soir, le Fenedika est bondé. C'est le dernier concert, la dernière soirée avant la destruction. Dans la salle, bas de plafond, à la lumière chaleureuse, les murs sont recouverts d'objets d'art et d'instruments de musique provenant du monde entier, comme une caverne pleine de trésors. L'atmosphère est joyeuse, mais au fond, les cœurs sont tristes. Mickey, habitué du lieu, est très déçu.
J'imagine que tout a une fin, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est la fin d'une époque. Fendika a été le centre de la culture d'Addis Abeba. Une grande partie de la culture urbaine que nous voyons à Addis a commencé ici. Je pense que cette ambiance et cette culture spécifique, cette diversité et cette convivialité, ça prendra du temps à reconstruire.
Le bâtiment situé dans le quartier de Kazanchis, en grande partie détruit, va faire place à de grands boulevards bordés d'immeubles modernes. Pour Gélané, cliente fidèle du Fendika, la réurbanisation est trop brutale.
Je comprends la nécessité d'innover, mais il y a de meilleures façons de le faire. C'est la même chose pour Piazza. Je comprends que certaines parties devaient disparaître, mais en démolissant sans stratégie, sans plan, nous avons perdu toute une partie de notre histoire que nous ne pourrons jamais récupérer. Et lorsque cette génération mourra, il ne restera plus que des contes à raconter.
Deux jours plus tard, Melaku Belaï, fondateur du Fendika et danseur célèbre, se tient entouré de quelques employés sur un tas de gravats. Tout ce qui reste du lieu historique.
Je n'y croyais pas jusqu'à hier. Le camion est venu pour détruire Fendika. Ils m'ont même demandé si je voulais le détruire moi-même. Je leur ai dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais que je n'y toucherais pas. C'est comme mon enfant, alors j'ai juste regardé.
17 des 43 employés vivaient dans le centre culturel. Comme de nombreux habitants de la zone, ils se retrouvent sans toit. Melaku cherche un endroit pour les loger en attendant et préfère penser à l'avenir.
Le Fendika me rend fier. Ce que j'ai fait, c'était visionnaire. Pour les gens, les étrangers, pour la liberté de l'art, pour la créativité. Je l'ai fait et j'en suis fier. Je suis aussi très heureux que le gouvernement ait accepté de me donner le même emplacement. J'espère qu'il me prêtera de l'argent et qu'on travaillera ensemble. Sinon, je cherche des investisseurs et collecte de l'argent.
Pour rentrer dans les nouveaux standards, il faut construire un immeuble d'au moins 20 étages. Pour un tel projet, Melaku a d'abord besoin d'€1,150,000 pour obtenir un permis de construire. L'idée, refaire le centre multiculturel du Fendika en plus grand, avec d'autres activités commerciales pour financer la partie artistique et rembourser les investisseurs. Clotilde Hazard, Addis Abeba, RFI.
Et reportage à retrouver sur les plateformes de Radio France Internationale. Allez, de la musique maintenant en Tunisie à 18h51, temps universel. Elle s'appelle Sarah Perez, nom de scène Sarou. Cette jeune femme d'origine tunisienne juive remixe et remet au goût du jour des chansons du répertoire tunisien juif. Un défi musical, mais aussi une façon de faire de la musique, un pont entre les cultures, alors que la violence est à la une de l'actualité proche-orientale ces derniers mois. Notre correspondante Amira Souleym l'a rencontrée pour qu'elle nous livre les secrets de son projet et de sa motivation.
Je suis Charou, DJ productrice. Je travaille principalement sur l'intersection entre les musiques juives et les musiques arabes. Et voilà, je fais un travail de revalorisation et de réactivation des mémoires autour de cet héritage. C'est un exercice que j'adore vraiment, parce que en fait, on va jouer avec la matière sonore du morceau original. Et on va essayer de la faire dialoguer avec des sonorités plus électroniques, avec donc le son de boîte à rythme, de synthé. Je trouve que c'est un terrain de jeu assez chouette.
Des années de documentation et un album intitulé Ya Hasra, locution typiquement tunisienne qui exprime la nostalgie du bon vieux temps. Des dizaines de chansons exhumées, avec ses équipes, Charouh a dû faire des choix.
Donc on a choisi ensemble des morceaux de Habib Amsika, Raoul Journeau, El Kahlaoui Tounsi et Louisa Tounsiya, donc quatre chanteurs emblématiques du répertoire juif tunisien. Ces morceaux, je les aime tous pour des raisons différentes. Donc Raoul Journeau, pour la petite histoire par exemple, il l'a joué à la bar mitzvah de mon père, donc j'ai particulièrement d'affection, on va dire, pour cette figure. Habib Amsika, je l'ai découvert plus tard par mes amis tunisiens. Mais j'adore cette figure parce que voilà, je la trouve particulièrement inspirante, son côté icône féministe qui défiait en fait aussi bien le patriarcat que la domination coloniale française.
100 000 Tunisiens juifs ont quitté le pays depuis 1948. Cet album, une façon de les retenir encore un peu.
Malgré le bateau, le départ, la douleur du déracinement, il y a un amour pour la Tunisie qui subsiste en diaspora et qui passe par plusieurs choses, la nourriture, l'humour et puis bien sûr aussi la musique. Donc voilà, ce projet, il a aussi vocation à montrer notre commun et à nous rassembler. surtout à une époque où tout semble nous diviser et où les identités juives et arabes sont constamment renvoyées dos à dos.
Après la Tunisie, Charouh a prévu de s'intéresser désormais aux musiques algériennes et marocaines juives.
حبيتك يا زين الزين
وهويتك يا زين الزين
حبيتك يا زين الزين
وهويتك يا زين الزين
حبيتك يا زين الزين
وهويتك يا زين
الزين حبيتك يا زين الزين
وهويتك يا زين الزين
والعقل معك والعقل معك حبيتك والعقل معك والعقل معك روحي تتمنى بلقاك روحي تتمنى ملقاك وهديت لك قلبي يا زين وهديت لك قلبي يا زين زين وهديت لك قلبي يا زين وهديت لك قلبي يا زين
حبيتك يا زين الزين
وهويتك يا زين الزين
حبيتك يا زين الزين
وهويتك يا زين الزين
حبيتك يا زين الزين
وهويتك يا زين الزين
حبيتك يا زين الزين
وهويتك يا زين الزين زين حبيتك يا زين الزين
وهويتك يا زين الزين
Il est 19h56 à Paris. Et à suivre ce soir sur RFI à 19h10, temps universel, ici l'Europe, coproduit par RFI et France 24. Caroline de Camaret et son équipe reçoivent Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Il revient sur les fragilités du couple franco-allemand au sein de l'UE, mais également sur le déficit record de la France. Écoutez-le.
On doit absolument redresser la barre. Je suis, je dois dire, un peu rasséréné que le nouveau gouvernement ait en tête qu'il faut effectivement changer la direction que nous avions prise en matière de finances publiques. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être le plus mauvais élève de la classe. Cela dépend évidemment de la conjoncture européenne et internationale, mais si jamais il y avait un sérieux coup de tabac, alors ça nous mettrait dans une position qui serait mauvaise.
Ici l'Europe, 19h10, temps universel, suivra à 19h40, toujours TU, pourquoi RFI dit ça aux États-Unis pour l'élection américaine. Rencontre avec des électeurs qui répugnent à confier leur choix en amont du vote du 5 novembre. À l'exemple d'Irvin Mayfield, trompettiste reconnu enfant de la Nouvelle-Orléans. Il revient sur les difficultés de mêler vie d'artistes et soutien politique.
A lot of artists are afraid to express themselves.
Beaucoup d'artistes ont peur de s'exprimer parce que de nos jours, en raison de l'avènement des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, d'Internet, dire ce qu'il ne faut pas dire, ou en tout cas ce que l'on est supposé ne pas dire, peut avoir un impact négatif considérable sur les performances d'un artiste.
Rendez-vous à 19h40, temps universel. Enfin, vous retrouverez à 20h10, toujours temps universel, couleur tropicale. Claude Issiard vous propose ce soir une émission consacrée aux nouveautés. Vous entendrez Baby Philippe, dont voici un extrait du titre « Du bruit pour mon cœur ». Du bruit pour mon cœur de Baby Philippe, c'est à 20h10, temps universel, 22h10, heure de Paris, dans couleur tropicale. Ainsi s'achève cette première édition d'Afrique Soir. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur Radio France Internationale, avec à suivre dans un instant un nouveau journal, bien sûr largement consacré à l'actualité internationale. Bonne soirée à l'écoute de la Radio du Monde.
Le Club RFI, Éric Amiens.
Cette semaine, direction la ville d'Uvira, en République démocratique du Congo. Le club et ses différents partenaires ont lancé un élevage de volailles. Dans cette émission, ils parlent de l'évolution de la ferme avicole. Nous évoquerons aussi une formation destinée aux journalistes des radios communautaires du territoire sur la fiscalité.
Le club RFI, Éric Amien.
Dimanche, à partir de 19h40.
RFI. Jessie B, la lauréate du prix Découverte RFI 2023, sera en concert dans le cadre de sa tournée africaine en partenariat avec RFI et l'Institut français.
Retrouvez Jessie B les 7 et 8 novembre à N'Djamena, le 13 à Bukavu, les 15 et 17 à Goma.
Plus d'infos sur le site de l'Institut français de votre pays et sur la page du prix Découverte sur le site RFI Musique.